Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans la curiosité du week-end. Comment va la magnifique, la sublime Sidonie Bonnec?
Mais ça m'inquiète quand vous me dites ça, parce que vous allez me demander de l'argent,
bah,
un virement.
Oui, c'est ça.
J'ai rien à vous donner à part mon amitié et ma curiosité, c'est déjà pas mal.
Bon,
ça va Thomas?
Ouais, ça va.
Bonjour les curieux et bon week-end de Pâques, nous sommes ensemble jusqu'à 15h pour découvrir ou réécouter les meilleurs moments de l'émission.
Comme par exemple la découverte du quotidien des Japonais, vous saurez tout sur leurs coutumes, ce qu'ils mangent, les sports qu'ils pratiquent, leurs traditions ancestrales. Vous verrez que tout ça c'est loin de notre culture et donc passionnant.
Tout de suite, on se bouscule au portillon, bah normal, on est charrette sur RTL.
La curiosité est un vilain défaut.
Il y a de l'orage dans l'air, il y a de l'eau dans le gaz entre le jazz et la java.
RTL.
RTL, 7h43.
Bonjour Alba Ventura.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
À droite, ça se bouscule au portillon.
Numéro bis, tu es le seul disponible.
C'est que je suis un petit peu charrette en ce moment, j'ai le chantier de Malocoxis à terminer.
Ma reine, en tant que votre architecte, je me permets de proposer mes services.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Voilà trois expressions dont on va vous raconter l'origine. Il y a de l'eau dans le gaz, c'était Nougaro, le jazz et la java. Alba Ventura et Laurent Bazin. Petit coucou à l'ami Bazin qui se bouscule au portillon. Et puis Jamel Debbouze qui était charrette dans Astérix et Obélix, mission Cléopâtre. D'où viennent-elles ces expressions? Notre invité a les réponses, Dominique Lesbros. On est très heureux de vous accueillir. Alors on va commencer par une expression qui est très radiophonique et qu'on emploie souvent avec Sidonie. On vous donne rendez-vous, on donne rendez-vous aux auditeurs RTL à 20h pétante. D'où elle vient cette formulation? Il est midi pétante.
Elle est liée à la présence d'un petit canon dans les jardins du Palais Royal. Alors c'est un canon, pas un gros canon, c'est un canon de poche qui est au milieu du jardin et qui a la particularité d'être un canon méridien, c'est-à-dire qu'il tonne, il tonnait chaque jour à midi quand le soleil était au zénith. Il y avait un système de lentilles convergentes qui allumait
une mèche
et une détonation se produisait. Alors il faut se souvenir qu'à cette époque, 18e siècle, les gens n'avaient pas toujours de montre sur eux, pas encore. Et ça leur permettait de connaître l'heure.
De
et
se situer dans la journée.
Une fois par jour. Pratique.
Au moins une fois par jour.
C'est déjà ça.
Ne pas être en retard une fois par jour.
Il y avait d'autres canons méridiens dans Paris?
Il y en
Paris,
avait beaucoup
ou en France,
d'autres. Et jusqu'au 19e siècle, on en comptait un d'ailleurs sur la Tour Eiffel. Mais celui du Palais Royal était le plus connu, et y compris à l'étranger. Et c'est celui-là que la mémoire collective a retenu.
Est-ce que ce canon du Palais Royal existe toujours?
Alors, il existe. Il a fonctionné. Il a été volé. Enfin, il a une histoire assez rocambolesque.
Ouais.
Et il est encore en place. Et il tonne maintenant chaque mercredi à midi.
Ah.
Ah, mais on va aller l'écouter. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de balade.
C'est une bonne idée.
Pour faire une surprise à un copain qui va. Qu'est-ce que c'est? Bah, les midi pétantes.
Moi, il y a une expression que j'adore. C'est bon, on va pas attendre 107 ans. Alors, ça vient d'où cette expression?
Celle-là, elle est liée au chantier de construction de Notre-Dame, qui était un chantier tellement long. Il a traîné, il s'est étalé sur plusieurs générations. Il était tellement long et tellement complexe qu'on n'en voyait pas le bout. Et
oui.
Si on compte l'achèvement des gros travaux ou les petites fioritures, en fait, le chantier.
Les finitions,
voilà, ouais. Les finitions, les détails.
Ouais.
Les travaux, ils ont duré entre 133 et 182 ans. Mais,
ah ouais.
Mais pourquoi 107 alors?
Alors, bizarrement, les Parisiens n'en ont retenu que 107 pour désigner un laps de temps qui semble interminable.
Oui, parce que c'est euphonique aussi de dire 107 ans, alors on ne va pas attendre 183 ans, c'est un peu
c'est
plus long
court.
Peut-être.
Ah, c'est peut-être pour
oui,
ça.
Oui, peut-être.
Ouais,
allez.
Bon, on vous fait confiance, Sidonie.
Merci.
Vous avez appris un mot avec André Facetta pendant le dîner. C'était quoi déjà?
Communication fatigue.
Ah, fatigue,
oui,
c'est ça.
Oui, fatigue. Ça veut dire discuter, ce qu'on fait souvent. On discute un peu pour
rien
dire.
Pour ne rien dire.
Juste pour blablater, se faire du bien avant l'émission, quoi.
La conversation fatigue, c'est ça, ouais. La communication fatigue. Dominique Lesbros, vous regroupez donc d'autres expressions dans ce livre, ça se bouscule au portillon, mots et expressions cocasses ou pittoresques nées à Paris. C'est publié chez Parigramme, ça se bouscule au portillon. C'est le titre du livre, ça vient d'où ça?
Alors cette expression, elle est apparue dans les années 20 avec le premier portillon de la station Jaurès.
C'est dans le métro?
Alors c'est dans le métro, voilà, on est sur la ligne 2, la station Jaurès, et on a installé une porte pivotante qui basculait sur un axe. Et dès qu'un train arrivait dans la station, le portillon se refermait pour réguler le flux des passagers.
D'accord, c'est une forme de sécurité.
Voilà, donc on imagine, parce que le portillon était commandé par une pédale d'appel qui était située en amont sur les rails. Donc on imagine, quand on entendait au loin une rame,
oui,
les gens qui couraient, le portillon qui tout doucement se refermait, et certains les plus malins essayaient de se glisser dessous comme ils pouvaient, et le dépit de ceux qui restaient bloqués derrière et qui étaient bien forcés d'attendre le prochain.
Au portillon,
génial.
Ça y est, on
l'a. Il y a plein de mots dont j'ai découvert l'origine dans votre livre, Dominique Lesbros, notamment le mot chandail. Si Denis, vous allez être contente, ça vient de Bretagne. À tout de suite, les curieux.
Soyez fiers d'être curieux avec RTL.
C'est jusqu'à 15h sur RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
Faire grève, c'est un mot qu'on entend très souvent dans l'actualité, mais saviez-vous qu'il est né au cœur de Paris? Au bord de la Seine, c'est l'une des découvertes du livre de notre invité Dominique Lesbros. D'ailleurs, qu'en est cette expression et où était cette grève?
Elle était au Moyen-Âge devant l'actuel hôtel de ville, mais qui était la maison aux piliers. Et sur c'était une plage en pente douce sur laquelle accostaient les navires chargés de marchandises qui alimentaient Paris. Et on avait toujours besoin de bras, de manutentionnaires pour décharger les ballots, les tonneaux. Et c'est à cet endroit que se regroupaient les hommes qui étaient en attente de travail.
Donc faire grève à l'époque ou faire la grève, ça voulait dire chercher du travail?
Chercher du travail. Et le sens a glissé au 19e siècle pour désigner une assemblée de personnes en arrêt momentané de travail. Ça désigne un attroupement de travailleurs inactifs.
Ah oui, ça s'est inversé quoi, d'une certaine façon. C'est étonnant. Alors je disais tout à l'heure qu'on allait parler du mot chandail, et pour ça il faut aller dans le quartier des Halles à Paris. Ce qui est super dans votre livre publié chez Parigram, c'est que vous avez vraiment été chercher l'origine géographique quartier par quartier de ces expressions. Et donc les Halles, c'était le grand marché de Paris. Aujourd'hui c'est à Rungis.
Le ventre de Paris,
exactement. C'était les Halles. Et donc il y a l'origine de ce mot chandail.
Oui, alors quel rapport entre une tresse d'ail, un pull et un breton? Voilà, il faut chercher.
C'est ça, le rébus.
Donc il se trouve que dans ces halles, ces halles retentissaient des cris de Paris. C'est des cris que lançaient les marchands ou les artisans pour vendre leur camelote.
Oui.
Hein, c'est pas péjoratif du tout.
Oui, parce que camelot, c'est un joli mot. Ouais.
Et il y avait parmi ces vendeurs des vendeurs d'ail, alors qui venaient essentiellement de Bretagne, mais aussi un peu du sud de la France.
Mmh.
Et pour annoncer leur venue, ils criaient « Marchandail, achetez de l'ail, croquez de l'ail !» Et alors, on a retenu que la dernière syllabe...
Mais ils étaient habillés d'une certaine façon aussi.
C'est ça. Ils portaient un vêtement très particulier qui n'était pas connu à Paris. C'était une sorte de gilet sans boutons, tricoté très très serré, chaud et imperméable. Et ce vêtement a interpellé les Parisiens et ils ont associé ce vendeur d'ail à son vêtement. Et paraphérèse, on a enlevé la première syllabe, on a enlevé mar et on a gardé chandail.
Paraphérèse, quelle est cette figure de style?
Ça consiste à enlever la première syllabe d'une expression.
Ah, c'est formidable, c'est passionnant.
Fatigue, on en apprend des mots, c'est
alors,
génial.
Alors, il y a souvent une petite formule que me dit Thomas, car je suis de nature assez, assez speed, on peut le dire.
Impatiente.
J'entends souvent, et impatient, Thomas me dire « minute papillon ». Alors je trouve ça très joli, mais alors oui. Ça vient d'où?
C'est un peu suranné quand même, mais bon, ça vient
c'est d'où. Adorablement suranné.
Ah, c'est né dans les années 30 dans un café qui était tout à côté de la rédaction du Canard Enchaîné.
Oui.
Voilà, c'est pareil, on cherche le lien, le papillon, le canard. Mais il se trouve que les journalistes avaient pour habitude de se retrouver au Café du Cadran, qui est situé entre la rue Daunou, à l'angle de la rue Daunou et de la rue Louis-le-Grand. Et dans ce café, ils restaient des heures à parlementer, à refaire le monde. Et évidemment, les verres s'accumulaient sur la table. Et puis, le serveur, au bout d'un temps, demandait à ce que la note soit réglée.
Et le serveur?
Et ce serveur s'appelait Alexis Papillon. Et alors à chaque fois qu'il demandait à ce que l'ardoise soit réglée, il s'entendait dire « Oui, bah minute papillon hein. !»
C'est drôle,
génial.
Et
mais
donc,
alors ça peut s'employer
extension...
sur deux tons. Si on dit « Voilà, pap, minute papillon », c'est pour dire
« Prends ton temps,
voilà,
calme-toi. »
Tranquille, relax. Ou alors « minute papillon », c'est « Oh là, je suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire. »
Ah oui, c'est génial.
Mais en fait,
le ton,
Ce qui est drôle, c'est de se dire que quand une expression claque bien, elle se répand en fait.
Elle reste.
Et elle reste et puis elle finit par... par gagner la France entière. Tiens, par exemple, une expression qui est souvent utilisée dans le monde de l'entreprise. Alors moi, je pensais que c'était réservé aux publicitaires. Je sais pas pourquoi j'avais ça en tête. L'expression « je suis charrette ».
Oui, au départ, je pensais aussi que c'était uniquement dans les open space qu'on disait ça, oui, et de façon très récente. Oui. Non, mais c'est né alors entre Saint-Germain-des-Prés et Montparnasse. Mmh. Et l'expression est liée aux étudiants de l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais qui avaient dans leur cursus une contrainte. C'était de rendre des projets collectifs, enfin de mener à bout un projet collectif en moins de 24 heures.
D'accord, et donc il fallait rendre quoi, des maquettes?
Alors ça pourrait être des maquettes, ouais. des croquis, des dessins. Et alors, une fois ce délai écoulé, il y avait un appariteur qui passait au domicile des étudiants qui habitaient pour la plupart dans le quartier de Montparnasse et qui emmenait dans une charrette tout ce barda de matériel. Et quand les étudiants n'étaient pas prêts et qu'ils avaient envie de gagner un petit peu de temps, ils se chargeaient eux-mêmes de déposer leur matériel à la salle des rendus avant midi. Et pour ça, ils empruntaient une charrette d'un marchand qui se trouvait toujours près de la gare. Et quand il était vraiment, vraiment, vraiment juste sur les délais, il y avait un des camarades qui montait sur la charrette pour finir en catastrophe le croquis, tandis que l'autre tirait.
D'accord.
Donc, on imagine les badauds qui regardaient
cet
attelage passé. Oui.
Et donc, ils étaient charrettes, effectivement, puisqu'ils étaient dans la charrette. Quoi.
Voilà, ça désigne aujourd'hui quelque chose qu'on doit finir dans un délai très court.
On continue de découvrir d'autres expressions en musique. On va faire un bœuf à Paname.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.
Et chaque jour, c'est la routine.
RTL.
Mets ton boulot dodo, boulot métro dodo, dodo métro boulot.
Nous n'y faisons le ménage qu'une fois tous les 6 mois.
Le jour où l'on déménage à la cloche de bois.
Toutes les idoles de la coupole, les midinettes, les gigolettes.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Mets ton boulot dodo, boulot métro dodo.
Renaud Bourville, on a reconnu, et Métro Boulot Dodo, c'est signé de chanteurs sénégalais, les
super
frères.
Joli.
Qui sait, c'est très joli. La curiosité, c'est tous les soirs de 20h à 22h sur RTL. Et si vous nous écoutez régulièrement, vous savez qu'avec Sidonie, on adore trouver l'origine des mots. Alors on est servi grâce à notre invitée, la journaliste Dominique Lesbros, qui a recensé des dizaines, peut-être même des centaines d'expressions nées à Paris et qui ont essaimé dans toute la France. Paris, c'est Paname, comme le chante Slimane.
Paname, Paname, on arrive, moi ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive, moi mes rêves et mes chansons.
Paname, 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 chanté par Slimane, Dominique Lesbros. D'où vient ce surnom de Paris, Paname?
C'est une association surprenante de fêtes qui vient à la fois de la mode et de scandales politiques. Alors, à l'exposition universelle de 1855, les Parisiens ont découvert un chapeau qu'ils ne connaissaient pas. C'est un chapeau très léger, confortable, fait à base de jeunes pousses de bambou.
Le Panama ?
C'était non le Panama, mais ouais. Il ne s'appelait pas encore comme ça.
D'accord.
D'ailleurs, il venait d'Équateur, donc rien à voir avec le Panama.
D'accord.
Il était élégant, il était confortable, donc tout le monde l'a adopté, et y compris les ouvriers qui piochaient dur sur le canal de Panama. Nous y venons.
D'accord, ok. Donc c'est devenu
donc
le Panama.
Le fameux canal.
Oui.
Donc ce chapeau de paille qui n'avait pas encore de nom, il a été baptisé Panama. Mm-hmm. Et puis le scandale de Panama, il a éclaté en 1892. Donc il a ruiné des milliers d'épargnants, il a éclaboussé des industriels et des hommes politiques. Et bizarrement, cette liaison entre le chapeau et le scandale, il a été raccroché à Paris, qui est en soi la ville des illusions et des désillusions. Quelque chose d'un passage très brutal entre le rêve et puis la cruelle réalité.
C'est incroyable comme origine.
Et donc il est rentré dans le dictionnaire, ce mot, dans les débuts 20e siècle.
Et donc on a associé Paris à Paname. Puisqu'on était en musique avec Slimane, on va continuer. Et si on se faisait un bœuf? Elle vient d'où cette expression?
Elle est
C'est quoi le sens déjà?
C'est alors faire un bœuf, c'est se réunir pour jouer en improvisant un peu. Et elle est née du côté des Champs-Élysées, dans un cabaret qui s'appelait le Bœuf sur le Toit, rue Boissy d'Anglas. Mmh. Et où, alors on est dans l'entre-deux-guerres, et là le jazz animait les nuits parisiennes. Et les musiciens qui jouaient dans des clubs un peu partout dans la capitale avaient pour habitude de se réunir au Bœuf sur le Toit pour jouer un petit peu, mais pour le fun, pour eux, entre eux. Et ils improvisaient avec des amis ou avec de parfaits inconnus. Et c'est ce qui a forgé la réputation de ce lieu, le Bœuf sur le Toit.
Oui. Alors, quand... ce restaurant, il y avait quelques stars quand même de l'époque qui allaient.
Il y avait Jean Cocteau, il y avait Juliette Gréco.
Juliette Gréco, Picasso et d'autres.
Et puis quand on se réunit comme ça entre amis et qu'on fait un bœuf, parfois il y a deux dans le gaz. Alors, non mais c'est vrai.
Mais, bah oui, quand il y a des notes discordantes, c'est
voilà,
ça.
Voilà, c'est ça. Et ça vient d'où? Des petites copines qu'on se chippe. Enfin bon, il peut se passer plein de choses. Oh bah.
Oui, alors l'eau dans le gaz, au départ, le gaz, dans un premier temps, il a alimenté les appartements du rez-de-chaussée, uniquement les appartements sur cour. Et puis est apparue dans les années 1860 la première colonne montante de gaz, c'est-à-dire enfin les appartements des étages pouvaient avoir accès à cet éclairage-là. Mais la technique n'était pas encore complètement au point et le gaz qui était à base de houille, parfois il y avait des infiltrations d'eau et ça provoquait des petites pétarades à l'image de celles qui parfois ponctuent les couples et les ménages. Voilà, il y a des petits heurts, mais c'est pas ça qui...
Mais non, l'eau dans le gaz, c'est pas si grave.
Ça passe. Allez, on a démarré cette séquence avec métro, boulot, dodo. Cette expression, elle est évidemment ultra connue. On la doit à un libraire. Et alors là, c'est plus proche de nous, hein, puisque c'est au moment de mai 68. Qui était Pierre Béarn?
Alors, c'était un homme de lettres et un libraire qui avait boutique rue Monsieur le Prince. Et pendant les événements de mai 68, il suivait de près, puisqu'il était au cœur de là où ça se passait. Et il était allé à un meeting au théâtre de l'Odéon. Mmh. Et il avait pris la parole et il avait dit aux étudiants, mais de toute façon, les ouvriers, ils ne seront jamais avec vous. Il s'était fait huer pour avoir dit ça. Et le lendemain, un des étudiants est venu à sa boutique. Il lui a dit, mais trouve-nous un poème pour que les ouvriers se rallient à notre mouvement. Fais quelque chose. Et Pierre Béarn leur a donné un de ses poèmes. Mmh. Et qui se terminait par le vers métro, boulot, bistrot, mégot, dodo, zéro.
Génial.
Alors, certains mots sont passés à la trappe, on n'en a retenu que trois pour désigner une routine, quelque chose lancinant et sans espoir d'avenir.
Et donc, c'est devenu un des slogans de mai 68 pour appeler les ouvriers à rejoindre, à rejoindre le mouvement. Magnifique histoire. On va terminer juste en disant quelques noms de rues. Comment certains Parisiens ont voulu se débarrasser du nom de leur rue? La rue Beaubourg. Elle s'appelait comment?
La rue Trasputin.
D'accord, ok, on peut comprendre pourquoi ils ont changé. La rue Gratte-Cul, c'est devenu la rue
Rue du Sou, parce que les riverains ne supportaient pas de devoir dire ce nom-là. Donc
Moi, j'aurais bien aimé habiter rue du Poil au Con. Mais malheureusement, elle n'existe plus. Elle s'appelle la rue Pélican. Bah, je ne comprends pas pourquoi.
Aucun pélican n'est passé par là.
Voilà. Et il y avait aussi une rue pavée d'Andouille, évidemment. Tout le monde a voulu changer parce qu'ils ont dû se faire appeler Andouille pendant toute leur vie. Et c'est devenu la rue Séguier. Voilà, merci beaucoup, Dominique Lesbros, votre livre. Ça se bouscule au portillon.
Ah, c'est un régal.
Aux éditions Parigramme.
À suivre dans la curiosité sur RTL, un voyage au pays du soleil levant.
On est bien entre curieux sur RTL.